La revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Et bonjour
ce matin,
Guillaume.
Retour de bâton en série.
Oui, si la voie du compromis est impraticable, alors il ne reste plus que celle de la confrontation. Voilà peu ou prou le message qu'a tenu à adresser hier l'Iran avec la mise en route d'un plan visant à augmenter sa capacité à enrichir l'uranium dans le cas où l'accord de 2015 sur son programme nucléaire viendrait à s'écrouler. Ou quand Téhéran joue la carte de la pression, écrit ce matin L'Orient Le Jour, l'Iran fait monter la pression sur les Européens, renchérit à son tour The Financial Times. Alors évidemment, le timing ne doit rien au hasard. Après s'être entretenu successivement avec Angela Merkel, puis Emmanuel Macron, le Premier ministre israélien est attendu aujourd'hui à Londres, une visite express auprès de la Première ministre Theresa May, dans le seul but de créer un front commun contre l'Iran. Reste que Benjamin Netanyahu a surtout du mal en réalité à attirer les Européens dans sa croisade, et pour cause, selon eux, cet accord, à défaut d'être parfait, offre aujourd'hui le seul garde-fou contre la prolifération nucléaire dans la région. Mais après tout, le Premier ministre israélien prendra-t-il ombrage de cet échec, lui qui ne se soucie de toute façon que de l'opinion de Donald Trump, analyse pour sa part le quotidien de gauche israélien Haaretz. Toujours est-il que Téhéran semble bel et bien s'impatienter et juge les efforts des Européens encore insuffisants. Pour preuve, l'annonce lundi dernier du groupe automobile PSA qu'il se préparait à quitter l'Iran. Toujours selon L'Orient Le Jour, le groupe pétrolier Total serait lui aussi en train de préparer ses valises. D'où cette analyse à lire cette fois-ci dans les colonnes du Temps. Alors qu'ils avaient suivi à la lettre les exigences de l'AEA, les Iraniens n'ont pas obtenu ce qu'on leur avait promis et il n'en fallait pas davantage pour les convaincre d'adopter une politique beaucoup plus agressive au Moyen-Orient.
Gare au retour de flamme, en tout cas, également aux États-Unis, Thomas.
Oui, en annonçant la semaine dernière l'application de nouveaux droits de douane pour les pays de l'UE, Donald Trump a été le premier à tirer, sauf que les Européens, eux, n'ont pas tardé à répliquer. Le bourbon, les Harley Davidson, mais aussi les jeans, les cigarettes ou bien encore le jus d'orange. Voici donc quelques-uns des produits américains que Bruxelles s'apprêterait à taxer ou quand le comportement erratique de l'administration Trump se transforme en énorme menace pour nos industries nationales, déplore ce matin The Hill. Et puis, toujours aux États-Unis, la polémique enfle sur l'étendue des pouvoirs du chef de l'État. Lundi, dans un tweet provocateur, Donald Trump a déclaré qu'il avait le droit absolu de s'auto-gracier, même s'il n'avait rien à se reprocher. Une déclaration qui contribue à maintenir la pression sur le pouvoir judiciaire, déplore The New York Times. En clair, le président continue à marteler l'idée que les suites de l'enquête du procureur spécial Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne américaine non seulement dépendront de son bon vouloir, mais surtout qu'elles ne pourront pas l'atteindre. Quand le président Trump se prend pour un roi, sa majesté le tsar Donald Ier prétend désormais au pouvoir suprême, raille à son tour The Washington Post.
Direction l'Allemagne à présent, où la classe politique s'insurge contre le nouveau représentant de Donald Trump. L'homme, en poste depuis un mois seulement, multiplie les provocations.
Oui, les Allemands qui s'étaient d'abord réjouis de savoir qu'ils allaient enfin avoir un ambassadeur américain à Berlin et que cet ambassadeur serait qui plus est un diplomate professionnel et non un riche soutien de la campagne du président, ont bien vite déchanté, note la correspondante du Temps. Hier, les partis de gauche, des Verts au SPD, en passant par Die Linke, ont tous demandé le renvoi du nouvel ambassadeur, accusé d'interférer dans les affaires intérieures. La veille, le ministère des Affaires étrangères avait lui-même demandé une clarification à Richard Grenell à la suite d'une énième provocation. Lundi, profitant de l'escale de Benjamin Netanyahu à Berlin, il s'est entretenu directement avec lui en privé à l'aéroport. Grenell se comporte en vice-chancelier allemand en organisant des rencontres avec des dirigeants étrangers, dénoncés détracteurs. Ce que fait cet homme est unique dans la diplomatie internationale. Il se comporte comme un officier colonial d'extrême droite, s'étouffe pour sa part Martin Schulz. Et de fait, le week-end dernier, l'ambassadeur avait assuré dans une interview au canal américain d'extrême droite Breitbart News vouloir soutenir la droite dure en Europe avant de louer le chancelier autrichien Sébastien Kurz. C'est une rockstar, je suis un grand fan, a-t-il déclaré avant de préciser l'avoir invité à son ambassade la semaine prochaine.
Et lui, en revanche, laisse définitivement sa place. Lui, c'est Mariano Rajoy.
Oui, après avoir été renversé par une motion de censure vendredi dernier, l'ex-chef du gouvernement a décidé hier de jeter définitivement l'éponge en renonçant à son poste de président du Parti Populaire. Quand le quotidien El País y voit là ce matin une issue possible à la crise politique, son confrère conservateur ABC rend lui hommage aux 40 ans de carrière politique de l'ancien Premier ministre dont le visage s'affiche pleine page sondages à la une du journal. Quoi qu'il en soit, Mariano Rajoy ne sera donc pas le leader de l'opposition au gouvernement du socialiste Pedro Sanchez. Un congrès extraordinaire devrait être convoqué prochainement pour désigner un nouveau président du Parti Populaire. Un congrès précise pour sa part la Vanguardia qui pourrait compter pas moins de 5 candidats à la succession et dont les couteaux sont d'ores et déjà en train d'être aiguisés.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.